Un bâti moment avec Marjolaine Meignet-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
Bonjour à tous qui nous écoutez sur Bâti Radio. C'est vraiment à nouveau un plaisir pour moi de passer un nouveau bâti moment en votre compagnie. Cette émission, vous le savez, c'est celle qui essaye de croiser les enjeux du secteur du bâtiment avec ceux du développement durable. Et ici, on fait le pari que c'est ceux qui nous écoutent sur Bâti Radio qui vont finalement vraiment changer la planète. Alors, sans plus de transition, j'accueille mon invité du jour, Christophe Carèche. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été longtemps député de Paris, vous connaissez bien le secteur immobilier. Vous avez pris la direction de Tonus Territoire, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui investit dans la construction de logements neufs en zone tendue. Et puis vous êtes également président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. C'est à ce titre que je vous reçois ce matin. Christophe, d'abord, expliquez-moi pourquoi vous avez autant d'intérêt pour ce secteur.
C'est lié à la fois à mon expérience et puis aussi au hasard de la vie. Mon expérience, c'est celle, vous l'avez dit, d'un élu local, puis d'un élu national. J'étais député, j'étais élu de Paris, et à Paris, la question du logement est une question centrale. D'ailleurs, bien avant l'emploi, par exemple, pour les gens qui y vivent. Et j'ai tout de suite compris que c'était un enjeu majeur. Je m'y suis intéressé. Quand j'étais à l'Assemblée, le rapporteur du budget du logement, à la Commission des finances. J'étais à la Commission du développement durable aussi. Enfin, donc c'est des sujets que j'ai croisés à plusieurs reprises dans ma vie, mais que je croise maintenant de manière beaucoup plus sensible depuis 2017, puisque Tonus Territoire donc est une filiale de la Caisse qui investit dans le logement avec une expérience là pour le coup opérationnelle sur les opérations etc. Et donc voilà tout ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet.
On peut dire que pour le coup vous êtes un Parisien mais qui a pas du tout une vision uniquement parisienne des sujets du bâtiment puisque vous avez vraiment une approche de l'ensemble des territoires. Moi c'est quelque chose que j'apprécie vraiment à travailler avec vous.
C'est vrai même si les questions des zones tendues sont en fait toutes, soyons clairs, le logement, il peut pas y avoir une approche nationale du logement. Le logement c'est d'abord une approche locale. Les marchés sont des marchés locaux. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on peut s'interroger sur la répartition entre zones A, B, C. Tout ça, on sait très bien que c'est un peu grossier par rapport à la réalité. Et je pense que cette approche locale, si on l'oublie, on fait beaucoup de bêtises. Donc, elle est centrale.
Alors, nous avons le plaisir de siéger ensemble au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Moi, j'y représente l'Assemblée nationale. Vous présidez cette instance, mais on va se mentir. Les gens qui nous écoutent, il n'y en a pas un qui sait expliquer ce que c'est que le fameux le CSE ou le CSC2E. Expliquez-nous, Christophe, oui,
d'ailleurs,
à quoi ça sert.
Je l'ai découvert moi-même avant d'en être le président. Donc, ils ont tout à fait des excuses. Le Conseil supérieur de la construction, c'est un organisme consultatif qui est placé auprès de la ministre du logement, qui réunit toute la filière de la construction du bâtiment, avec les principales organisations professionnelles, notamment des élus, aussi des associations, et qui donne un avis sur toute la réglementation. Ça va de l'arrêté au projet de loi. C'est un organisme consultatif, donc il n'a pas en tant que tel. Il n'est pas décisionnel en tant que tel, mais ses avis sont importants. C'est une sorte d'interface en réalité entre l'administration, ceux qui élaborent les normes, et puis les professionnels, ceux qui les appliquent. Voilà ce qu'est le Conseil supérieur de la construction.
Et puis les parlementaires, ils laissent traîner des oreilles pour savoir si ce sur quoi ils sont engagés est pertinent.
Bien
ou
sûr,
pas pertinent.
Parce que alors c'est justement ce que j'ai constaté. J'ai longtemps produit des amendements, etc., sans parfois me rendre compte que tout cela avait une vie après, qui n'était pas forcément très simple. Donc, il faut que les parlementaires sachent que lorsqu'ils font des choses, il y a des conséquences dans la réalité.
Vous viendriez faire une formation à l'Assemblée sur le sujet, parce que effectivement,
c'est un bon poste, effectivement, pour cela. Donc voilà, c'est cette interface qui est... qui est parfois conflictuel d'ailleurs. Hein,
parce oui,
que
parce
c'est
que
pas
d'ailleurs,
simple.
Ce n'est pas qu'un lieu d'interface entre l'administration et les différents acteurs, les différentes filières, mais c'est aussi des fois un lieu d'interface entre les filières entre elles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas toujours
bien
les
sûr.
Mêmes
il y a
enjeux
aussi,
et
vous
les
avez
mêmes
parfaitement raison,
positions,
il y a...
et ce n'est pas toujours simple de créer du consensus. Hein.
Tout à fait, il y a les contradictions aussi internes à la filière, avec des intérêts qui sont divergents parfois. Et donc effectivement, tout cela est un peu complexe et en même temps passionnant parce que justement on est à cette articulation entre la norme et son application. Je trouve que c'est un sujet qui dépasse d'ailleurs largement la problématique du logement, mais qui est tout à fait passionnant. Certains y voient d'ailleurs une problématique spécifique à la France quand on parle des normes, trop de normes, etc., oui. etc.
Alors
on voit comment la norme là, elle est utile, pas utile, efficace, pas efficace. C'est très intéressant sur ce plan-là.
Alors on s'était promis avec la loi ESSOC là pour une société de confiance, on s'était promis qu'on enlèverait une page sur de simplifier une page sur cinq du code de la construction, de basculer d'une logique de moyens inscrits dans les normes et dans les lois pour aller vers une logique de résultats pour engager les filières vers l'innovation. Est-ce que vous avez l'impression que cette bascule elle se fait vraiment ou est-ce qu'il y a même l'impression qu'il y a des résistances même du côté des filières elles-mêmes.
L'exercice de simplification, il s'est fait à travers ESSOC, la réécriture du code de la construction, etc. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il se fait à législation constante. Donc en réalité, c'est un sujet, c'est-à-dire que évidemment, c'est une contrainte forte. À partir du moment où vous êtes à législation constante, vous pouvez simplifier, c'est-à-dire trouver d'autres moyens d'arriver à faire respecter la norme, mais vous pouvez pas mettre en cause la norme elle-même. Donc c'est un exercice qui a ses limites inévitablement. C'est dans les missions du CSC2E, le conseil par ailleurs est un organisme, j'ai oublié de le dire, assez récent puisqu'il date de 2015 mais c'est dans les missions du CSC2E de veiller à la simplification des normes et au coût et donc aux répercussions sur les coûts de construction des normes. Donc nous avons aussi cette mission. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier, tout à fait extraordinaire, qui est celui de la transition écologique et énergétique, qui amène à une production, je pense, rarement vue de normes depuis maintenant quelques années. Moi, depuis que je suis à la présidence du CSC2E, c'est il y a un peu moins d'un an, nous avons une séance, une réunion tous les mois, et tous les mois nous avons 2, 3, 4 textes parfois à examiner, ce qui est considérable.
Mais on s'ennuie pas au Conseil supérieur.
Voilà, il y a un rythme très important, et je pense que c'est un des sujets parce que ces textes pris séparément peuvent être intéressants. Parfois, on donne d'ailleurs des avis aussi défavorables. Hein. Ça nous est arrivé assez souvent, donc on n'est pas notamment par rapport à des amendements.
On est d'accord. Hein. C'est le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. C'est pas une caisse enregistreuse.
On donne des avis parfois défavorables. D'ailleurs, l'administration et le gouvernement en tiennent plutôt compte, pas toujours. Sur le DPE, par exemple, on avait demandé à ce que la mise en application soit un peu retardée. Peut-être que si on avait écouté cela, on n'était pas les seuls. Hein. C'est évidemment les fédérations, un certain nombre d'organisations professionnelles qui l'avaient demandé. Peut-être que si on avait écouté cela, on n'aurait pas les difficultés qu'on a aujourd'hui sur le DPE. On donne des avis et ils sont le reflet au fond de la position des uns et des autres. Ce que je ne veux pas, par contre, et j'ai parfois des difficultés avec un certain nombre d'organisations, il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas l'Assemblée nationale. On est un organisme consultatif, c'est pas nous qui élaborons les normes. Nous, on est chargés de voir comment elles s'appliquent et de voir où sont les difficultés d'application.
Donc, la politique s'invite un petit peu au sein du CSC2E.
Et j'ai parfois le sentiment qu'au sein du CSC2E, certains finalement se trompent un peu de rôle. Bon, c'est normal d'ailleurs, c'est pas un jugement de valeur. Mais moi, j'essaye de revenir à une problématique et une problématique de professionnels, de compétences professionnelles sur l'appropriation au fond de la norme, sur l'utilité de la norme ou pas, en fonction d'un certain nombre de problématiques techniques, professionnelles. C'est ça, à mon avis, qui peut faire la différence, j'allais dire, dans la production du CSC2E, dans son existence. Ce que peut amener le Conseil, c'est justement cette dimension-là.
Alors, j'ai envie d'être un peu provocatrice en me disant, est-ce que le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, est-ce qu'il porte bien son nom? Parce que entre les logiques de zéro artificialisation nette à 2050, ouais, zéro carbone, zéro énergie, ça devient quand même très, très difficile de construire. Est-ce que petit à petit, on va transformer le Conseil supérieur de la construction, puis on va l'appeler le Conseil supérieur de la rénovation et de la lutte contre l'artificialisation des sols? Parce qu'il y a un peu des rééquilibrages importants qui sont faits. On va du neuf vers la réno, du bâtiment isolé au quartier, du béton au biosourcé, du constructeur à l'utilisateur, de la livraison à la maintenance. Voilà, il y a tout ça, c'est en train de bouillonner. Est-ce qu'on est en train de vivre une grosse révolution finalement dans ces sujets-là? Est-ce que le Conseil supérieur peut accompagner cette transition?
Alors, le Conseil supérieur, il est quand même très axé sur les problématiques de construction d'abord, d'efficacité énergétique aussi, mais c'est quand même les problématiques de construction qui sont mises en avant. La difficulté, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a énormément de choses en même temps et on demande énormément de choses en même temps à la filière. Soyons clairs, c'est-à-dire que on a l'Aéro 2020, par exemple, qui est une réglementation très structurante pour le secteur, qui va changer de manière très importante les modes de construction. Hein, c'est quelque chose de, d'important. On a eu le DPE. On a l'AREP déchets, par exemple, c'est-à-dire toute la problématique de gestion des déchets sur les chantiers. On a énormément de choses en même temps. On a la question des parkings à vélo dans les constructions neuves. Enfin voilà, donc tous ces sujets arrivent aujourd'hui, ils sont liés tout simplement à la production normative, notamment législative, qui a été d'abord engagée par le gouvernement, mais aussi par la Convention citoyenne. Mmh. Bon, et tout cela arrive en même temps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un sujet qui est d'appropriation et d'une filière qui a le sentiment d'être un peu bombardée, si j'ose dire, d'être soumis à des chocs multiples au même moment. Voilà. Mmh. Et ça, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un moment faire une pause, essayer de ne pas en rajouter en termes normatifs et essayer de se concentrer sur l'appropriation de ce qu'on a déjà décidé de faire. Mmh. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le socle normatif de la transition écologique et énergétique, il est en partie posé. Pas complètement, peut-être, mais il est en partie posé. Le sujet aujourd'hui, c'est de voir comment on va faire en sorte que la filière s'approprie tout cela. Donc, l'idée, par exemple, c'est une réflexion que je soumettrai peut-être au Conseil supérieur de la construction, on verra, l'idée d'avoir une pause normative dans les deux prochaines années, moi, me semblerait assez légitime, compte tenu de cette profusion de normes auxquelles on a eu à faire face ces derniers mois.
Donc l'idée, c'est que le Conseil supérieur parte en vacances pendant deux ans.
Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que l'idée, c'est qu'on se concentre sur l'appropriation des normes qui ont été, par exemple, de l'Aéro 2020.
Donc,
c'est-à-dire qu'on arrive, on travaille sur, encore une fois, l'appropriation de ces normes, voire qu'on les ajuste, hein, soyons clairs, mais qu'on n'ait pas de nouvelles problématiques, de nouvelles normes qui se traduisent par de nouvelles normes qui viennent finalement s'ajouter à toutes celles qui ont été prises jusqu'à présent.
Donc un petit peu une vision de vérifier la mise en œuvre, de regarder comment ça se passe peut-être sur le terrain.
Bien sûr que ce travail d'appropriation puisse se faire. Parce que c'est des normes qui sont, encore une fois, qui bouleversent beaucoup hein, le secteur, qui suscitent aussi beaucoup d'inquiétudes chez les acteurs. Les organisations nous le disent. Derrière, il y a évidemment des professionnels, il y a des artisans, il y a des entreprises qui vont devoir faire cet effort. Et on sait que c'est pas simple pour la profession. Donc, comment on accompagne, comment on forme aussi, parce que je pense que la question de la formation, elle est centrale dans cette affaire. Et donc, ça, c'est des questions qu'on devrait peut-être prendre le temps de plus se poser, ce qui suppose qu'on sorte, encore une fois, d'une production normative incessante et avec une profusion dans tous les domaines.
Oui, parce qu'au final, on peut comprendre à la fin que les gens finissent par se mettre en résistance contre cette avalanche.
Bien sûr, mais c'est exactement le risque. Le risque, il est clair, mais vous avez parfaitement raison. C'est le risque, c'est d'un blocage qui sera plus liée, à mon avis, ce sentiment d'être, face à une sorte d'avalanche, en fait, de problématiques, plutôt que motivé par un refus de la transition elle-même écologique et énergétique. De ce point de vue-là, d'ailleurs, j'entends beaucoup de choses, et puis il va y avoir une campagne à la fois présidentielle et législative, mais la transition écologique et énergétique, on est dedans.
Oui.
Enfin, faut
les
arrêter de dire qu'on
ne
fait pas, etc.
C'est ça, elle se fait.
Alors, je dis pas que. Après, on peut être critique sur ça va pas assez loin, c'est pas la bonne manière, etc., etc. Je pense que votre invité tout à l'heure dira sans doute des choses là-dessus. Mais elle est là, elle se fait. Donc, on n'est plus la question de savoir si on doit la faire ou pas me semble une question qui n'a plus de sens.
Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je constate. Et c'est un message que j'ai envie de passer avec vous, puisqu'on siège ensemble au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. C'est qu'en fait, parfois, quand on voit les débats qui ont lieu à l'intérieur de cette instance et quand ils sont rapportés à l'extérieur, ça peut donner le sentiment qu'il y aurait des résistances au sein du Conseil, mais ce n'est pas le cas. Les gens sont vraiment dans une volonté d'aller dans la transition, d'en être acteurs. Ils en ont beaucoup été motivés. Et derrière, dans la foulée, forcément, il y a des moments où quand ça va un peu vite, un peu loin, ça coince un peu plus.
Mais je pense que le sujet, c'est un sujet culturel, de formation, de changer de modèle. Ça, c'est très compliqué. Deuxième sujet, quand même, c'est celui des surcoûts. C'est un vrai sujet. Je comprends que les professionnels nous alertent là-dessus. Maintenant, je suis de ceux qui pensent, c'est peut-être pas très politiquement correct, mais c'est pas mon style. Je suis de ceux qui pensent que la filière a aussi des capacités en termes de productivité, en termes d'organisation, qui peuvent permettre aussi de limiter, d'absorber les surcoûts.
On
peut toujours dire les surcoûts, c'est les normes. C'est pas faux, mais les surcoûts, c'est aussi une organisation qui n'est pas suffisante de la filière. Par exemple, je suis de ceux qui plaident, il y a eu un rapport d'ailleurs de Robin Rivaton là-dessus qui est très intéressant, pour qu'on développe plus ce qu'on appelle la construction hors site. On sait qu'il y a des résistances fortes au sein de la filière, je les ai bien identifiées personnellement, et donc voilà. Mais ça veut dire aussi qu'on accompagne, parce que dans ce mouvement, le vrai sujet, il n'est pas que dans la construction, c'est une problématique de la transition écologique et énergétique. Soyons clairs, sur le plan industriel, il y a des gagnants et il y a des perdants. Il faut traiter les perdants.
Les perdants en question, ils perdent que s'ils refusent de se transformer.
Bah oui, mais demain, à 10 ans, vous pouvez quand même vous dire que on va construire avec moins de béton. Ça paraît évident. Et donc la production de béton aujourd'hui sera pas la même. Il y aura plus de bois, il y aura plus de matériaux biosourcés, il y aura pas que ça d'ailleurs. Le béton sera toujours là,
oui,
mais il y aura moins de béton.
Ça,
c'est évident. L'Aéro 2020, et moi j'assume cette orientation. L'Aéro 2020, elle favorise très fortement les matériaux type bois, matériaux biosourcés. Ou les matériaux, ce qui va conduire à de la notamment à de la mixité des matériaux, mais c'est vrai que le béton sera moins là. Donc il y a une question.
C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de dire qu'il y aura moins de béton, on pourra mieux se poser la question du bon matériau au bon endroit pour le bon usage,
certes,
plutôt que d'avoir
mais
un recours systématique.
Globalement, vous avez quand même.
Ils gagneront pas tout le temps.
Il y en a moins. Je dis pas que c'est un drame
bon
absolu, mais enfin la question quand même est posée. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit à cette filière, comment on l'accompagne, etc., etc.
Et
d'ailleurs, elle fait elle-même des efforts très importants, et il faut le souligner, pour décarboner le béton, etc. Enfin, je veux dire, elle s'adapte. Elle va aller probablement vers la mixité, ce que vous dites, la fois le bon matériau, mais aussi la mixité des matériaux, qui me semble être une piste intéressante. On aura du béton avec du bois dedans, ou des mixtes.
Ou même pas forcément dedans, mais dans les lieux constructifs,
voilà,
on aura
des matériaux mixtes, etc. Donc, et là aussi, il y a une possibilité. Donc, la filière, elle peut... Je dis pas que la filière est condamnée. Je dis que la filière, elle va se réorganiser, etc. Mais que c'est vrai qu'il faut, on peut pas dire aujourd'hui que ça pose pas de problème. Oui, ça pose un problème, et il faut accompagner la filière. Il faut l'aider à essayer d'aller vers ce nouveau modèle.
Le temps file, Christophe Caresse, et nous arrivons à la fin de ce bâtiment ensemble. Mais je voulais quand même vous poser une dernière question qui va rebondir sur ce qu'on vient de se dire. Justement, la jeunesse qui s'engage aujourd'hui dans les différents métiers du bâtiment, est-ce qu'ils doivent entendre les Cassandres qui disent bah, « ça c'est fini, c'est bouché », etc. Ou est-ce qu'au contraire, ils doivent se projeter dans tous ces métiers qui sont en train de se transformer, de se mettre en place ? Et comment ils peuvent le faire ?
Moi, ce que je pense, c'est que dans le bâtiment... toute cette réflexion, enfin plus qu'une réflexion, tout ce cadre normatif va induire beaucoup d'innovation. Je pense que ça c'est un effet positif de la norme et de cette norme-là, c'est qu'elle va, elle va susciter de l'innovation. Et je pense qu'encore une fois, on construira pas demain comme on construit aujourd'hui. Et je pense que pour des jeunes, cette problématique d'innovation, etc., est intéressante. Et donc, c'est une filière qui, sur ce plan-là, va connaître, à mon avis, une évolution très importante. Et je pense que, de ce point de vue-là, c'est intéressant pour des jeunes qu'ils puissent s'engager. C'est pas, enfin, pour parler clairement. L'image du ancien, du enfin un peu peut-être un peu vieillotte, un peu traditionnelle du secteur du bâtiment.
C'est pas l'avenir.
Ça sera pas ça. Non, ça sera pas ça. Encore une fois, beaucoup d'innovation, beaucoup de changements, et donc je pense qu'il y a place pour que des jeunes s'investissent, puissent avoir une trajectoire professionnelle dans ce type de secteur.
Merci Christophe Caresse, je vais vous laisser le mot de la fin.
Merci.
Là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous sur ce bâtiment. À bientôt.
Merci, au revoir.
Un bâtiment avec Marjolaine Meignier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.